Isabelle Fontaine, bon début de journée.
Bon matin, Steve.
On reparle de ce projet de bibliothèque qui a été proposé par un conseiller municipal, Vincent Boutin, qui est chef du Renouveau Charbonnois, qui dit « L'Est aurait besoin de sa bibliothèque ». Amène des chiffres comparatifs, dit « On ne dépense pas assez par citoyen, ouais. Il y a des besoins sociaux réels, tu sais aussi, ça a quand même cette fonction-là dans l'Est. On est prêt à aller où? À dépenser combien? Comment tu vois ça?
Moi, c'est ça qui m'a interpellé les données ce matin quand on compare 22,78 $ par habitant qui sont dépensés à Sherbrooke pour tout ce qui a trait aux bibliothèques, mais aussi livres, culture, alors que dans des villes comparables, on dépense jusqu'à au-delà de 40 $ par habitant. Et là, on parle par exemple de Lévis, de Saguenay, de Trois-Rivières, qui sont des villes plus petites que Sherbrooke. Et qui dispose d'environ 5 bibliothèques par 100 000 habitants, alors que nous, ici, on en a 3. Ça, c'est venu m'interpeller. Si des villes un petit peu plus petites que nous ont les moyens d'avoir des lieux structurants pour donner accès à la lecture, comment ça se fait que nous, on n'aurait pas les moyens? T'sais, c'est pour ça que ça m'a tout de suite convaincu de la pertinence de ce projet-là.
Je vais me faire l'avocat du diable. Je vais prendre les commentaires de certains auditeurs. Ouais. Il y a des gens qui vont dire, Isabelle, on n'en a pas d'argent. Il y a des baisses de fréquentation dans les bibliothèques. Pourquoi on investirait dans des espèces d'éléphants blancs, des lieux où il n'y aura pas un chat?
Ben, moi, en fait, je pense que la bibliothèque comme telle, là, c'est un lieu d'animation socio-culturelle de proximité. Je pense que les arguments où on dit dans l'Est, oui, effectivement, il y a certains quartiers plus défavorisés qui mériteraient d'avoir des projets plus structurants. Ça n'a pas besoin d'être un immense lieu comme la bibliothèque Eva Sénécal, qui est très grande puis peut-être parfois peut nous sembler un peu froide, mm-hmm. Mais ça peut être des lieux plus à taille humaine, mais qui permettrait aux gens plus défavorisés, aux familles, d'avoir accès à des activités de proximité gratuites, des séances de lecture en groupe, comme ils font dans les petites bibliothèques municipales de village, ce qu'ils appellent l'heure du conte, ou encore des activités pour que les enfants puissent s'approprier la lecture, le livre. Aussi, c'est aussi dans les bibliothèques, souvent, il y a des cours pour développer ses compétences informatiques. On voyait aussi, il y a des bibliothèques dans chaque arrondissement à Montréal. Et à Rosemont, il y avait installé ce qu'ils appellent des vélo-lectures où les enfants pouvaient lire des livres en pédalant.
Ouais, ouais.
Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour rendre des lieux à taille humaine, mm-hmm. Intéressants, structurants. Puis tu sais, pourquoi pas, tu l'as dit plus tôt, faire un bâtiment à taille humaine, mais qui embellit un endroit et le mettre vraiment en étudiant... La démographie, dans un endroit où les gens ont moins accès à des services ou ont moins les moyens de se déplacer jusqu'au centre-ville pour
dans
y avoir accès.
Dans un endroit où c'est accessible, pourquoi pas visible, mais là, je t'entends, c'est un projet d'envergure.
Je reviens à mon truc à taille humaine. C'est un projet d'envergure, je pense
que oui.
On ne
fait pas un petit café dans un coin, là.
On fait pas un petit café, puis on fait pas un point de service. T'sais, moi, je pense que les lecteurs mm-hmm. qui ont envie d'avoir accès aux services de la bibliothèque municipale ont probablement tout à fait les moyens de se déplacer. Les gens qu'on veut rejoindre, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer, qui n'ont pas non plus les moyens d'amener leurs enfants dans toutes les activités qui coûtent très cher, que ce soit les espèces de lieux où il y a des jeux, mm-hmm. Où j'essaie de pas nommer le nom, mais au
de
vol,
commerce.
Des choses
oh oui.
comme,
oh oui.
comme ça. Tu sais, nos enfants, ils sont très stimulés par des mm-hmm. endroits comme ça qui coûtent cher, alors qu'il y a moins de lieux de proximité.
On pourrait avoir un endroit plus gratuit.
Exactement.
Je vais te faire... évidemment, tout coûte quelque chose. Il va falloir sacrifier quelque chose si on y va avec un projet d'envergure pour une bibliothèque. Serais-tu prêt à l'opposer, par exemple, à une salle multifonctionnelle, la salle jeunesse qui est prévue au centre-ville?
Bien, là, t'as un endroit qui est prévu au centre-ville, tu sais. Est-ce que... Serais-tu prêt à l'opposer? Pas nécessairement. Je serais mm-hmm. peut-être prêt à avoir le modèle d'affaires de Valoris, par exemple, pour ne pas renvoyer un autre million là-dedans, tu sais, puis utiliser l'argent.
Le million à la place dans quelque chose de culturel.
De plus structurant. Tu sais, mm-hmm. qu'est-ce qu'on peut offrir comme service de qualité à nos citoyens? Puis moi, ça me ramène un peu plus loin à c'est quoi la vision qu'on a pour Sherbrooke? Je trouve que notre ville manque de leadership à bien des égards. Regarde sur le projet de train, on l'a vu la semaine dernière. On a attendu de voir si c'était vraiment réaliste avant de se positionner. Là, on a peut-être une idée de bibliothèque. On ne sait pas trop ce qu'on va faire, un point de service structurant, pas structurant, on ne le sait pas. Il y a eu la question de l'offre touristique, on en a parlé ensemble. En fait, j'en ai parlé avec Jean-Sébastien. C'est quoi l'offre touristique de Sherbrooke? Est-ce que c'est le vélo sur le Mont Bellevue? Est-ce que c'est autre chose? Je trouve qu'on manque de vision, d'orientation. Ça, c'est un autre beau projet. Mais est-ce qu'on peut réfléchir à c'est quoi notre identité comme ville, comme mm-hmm. Sherbrookeois, et comment est-ce qu'on la propulse? Puis après ça, on choisira quel projet est le plus pertinent par rapport à un autre.
Tout à fait. D'un point de vue national, bon, il y avait rencontre hier avec le premier ministre Legault, le premier ministre Ford en Ontario. Puis ça ramène un peu le débat, ça ramène sur la sellette nationale l'histoire de la francophonie au Canada. Quelle est la place de la francophonie? Est-ce qu'elle est défendable? Et ça va s'inviter, je pense, dans l'élection fédérale.
Ah, définitivement. Tu sais, on voyait, dans le fond, il y a comme un clivage entre le Québec et l'Ontario qui se dessine. On l'a vu hier à la sortie de la rencontre entre Ford et Legault. Ils ont une opposition sur la question des changements climatiques. Hein. Québec a déjà son mécanisme pour compenser les émissions de gaz à effet de serre. L'Ontario refuse la taxe carbone. Mais ça, c'est quelque chose de très pragmatique. Mais là, un nouveau clivage qui se dessine sur la protection des minorités linguistiques et notamment des minorités francophones en Ontario. Hey, là, c'est pas juste un clivage pragmatique environnemental, là, c'est un clivage identitaire. Mm-hmm. Et rappelons-nous, le clivage identitaire des signes religieux à la dernière campagne fédérale, hein, ça a carrément tué l'opportunité de Mulcair puis du NPD.
Va plus loin, la CAQ a quand même pompé un peu là-dessus en campagne aussi.
En campagne aussi, absolument. Le clivage identitaire, c'est très, ça vient chercher les émotions. Ça oriente l'électorat de façon beaucoup plus intéressante. Puis je regardais Scheer hier, tu sais, sa marche vers la campagne électorale à moins d'un an. Lui, là, il a actuellement 95 sièges à la Chambre des communes. Il doit en avoir 170 pour avoir une majorité. Il en manque 75. Il peut aller en chercher 29 au Québec et 48 en Ontario. Donc, il a besoin à la fois de sièges au Québec et de sièges en Ontario. Il n'ira pas chercher tous ces sièges-là, évidemment.
Imagine
mais
ces deux province-là s'oppose.
Exactement.
D'un point de vue idéologique.
C'est ce qui est en train de se dessiner. Pour lui, ça devient vraiment compliqué. Hier, il y a eu l'impossibilité à la Chambre des communes de s'entendre sur une motion pour défendre la protection des minorités. Hein? Puis Scheer n'était pas là. Heureusement pour lui. En même temps, de la Colombie-Britannique, il a fini par dire « Ah, oh, mais nous, on ne veut pas s'ingérer dans les compétences des provinces. » À ta peu, là. C'est pas juste une question de compétences des provinces. C'est une question de défense des droits des minorités linguistiques.
Mais Justin Trudeau, c'est quand même un habile politicien. T'sais. Il vient de se trouver là un cheval de bataille intéressant parce que lui, l'immigration, l'intégration, le multiculturalisme, la défense des minorités, il n'y en a pas de problème avec ça.
Il est complètement assumé, alors que la position de son adversaire est difficile à fixer, puis ça va être un nouveau défi. T'sais. On dirait que Doug Ford, là, il est en train de se placer dans le chemin d'Andrew Scheer vers le gouvernement du Canada, puis on verra comment ça ira, mais ça va devenir peut-être même une épine dans son pied. Là, hier, on disait, hey, Mélanie Joly a eu une excellente ligne quand elle a dit, il faut qu'Andrew Scheer parle avec son chef qui est en Ontario.
Ouch! Ouch.
Belle journée pour Mélanie Joly hier. Elle a retrouvé sa zone de confort.
Son aplomb. Oui, mais je ne sais pas à long terme. Je me pose encore la question.
On verra.
Une pleure de banane est si vite arrivée.
Absolument.
Merci Isabelle. À demain.
À demain.